Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AVC, ce film.
Vous voyez, je dois être bouleversé. Si.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, vous l'entendez peut-être à la qualité sensiblement moins bonne de l'enregistrement. Je ne suis pas au studio et je suis seul pour enregistrer l'introduction de cet épisode 57. Bon voilà, vous voyez, il y a des semaines comme ça où on n'a pas tellement d'inspiration et puis surtout où on a un peu trop tiré sur la corde en termes de travail à faire et à rendre. Et bah, cette semaine est une de celles-ci, pas de débat donc, ni de chronique pour aujourd'hui, mais un épisode tout de même, car après tout, il faut bien vous fournir quelque chose. Ainsi, en première partie d'émission, vous entendrez la rencontre entre le comptoir du cinéma et le podcast Une invention sans avenir, qui traite aussi de cinéma sous un angle plus politique. Aubry et moi-même avons reçu vendredi dernier au studio, donc dans une meilleure qualité d'enregistrement, Robin Cauche et Raphaël Jaudon, deux des trois co-animateurs de cette émission que vous pouvez streamer sur toutes les bonnes plateformes. Avec eux, on a parlé pendant 40 bonnes minutes de critiques de cinéma, vous vous en doutez, mais aussi de leur rapport à la radio, du rôle de l'écriture académique et de l'importance du jeu. C'était un plaisir de les avoir au micro de Transistor pour cette conversation à bâton rompu, à la fois drôle et riche. Nous les en remercions encore vivement et espérons que ce ne sera pas là la dernière des collaborations entre nos deux émissions. Et puis, dans la deuxième moitié du comptoir, vous entendrez au lieu du débat qui devait avoir lieu entre Claire, Juliette, Nathan et moi sur La Petite Dernière d'Afsia Herzi, la rencontre avec cette dernière, et sa comédienne Nadia Meliti, que Clarisse est allée interviewer, rencontrer au Comédia le 30 septembre dernier. Sur ce, je vous laisse avec un épisode 57 un peu moins habituel, mais pas moins passionnant que les autres. En vous remerciant, bonsoir, et on se retrouve donc la semaine prochaine en configuration classique pour parler de L'Étranger et de Yoroi. Comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor. Bonjour à tous les deux, merci d'être là sur Transistor.
Mais salut, ça fait très plaisir.
Ouais, salut.
Merci d'être de retour, Robin, dans le studio de Transistor. Oui. Alors, ça fait quoi d'être là 10 ans après ?
Non mais écoute, c'est très liminaire pour moi parce que en fait, ouais, mes premières émissions de radio sont dans ce studio, mais j'étais pas devant le micro à ce moment-là, j'étais derrière la console et l'ordinateur. Donc voilà,
plus de 10 ans après. Des flashs comme dans un film d'Alain René, je sais que t'aimes bien ça.
J'ai complètement des flashs de moments où j'ai un peu merdé la technique et où j'ai dû faire réenregistrer des trucs à des gens. Oui, j'ai un peu de stress post-traumatique, mais ça va.
Et sur ce point-là, Transistor n'a pas changé.
Vraiment pas.
Alors pour commencer très simplement, faites notre travail et présentez-vous au micro de Transistor. Peut-être Raphaël, comment tu te présenterais aujourd'hui ?
Ouais, c'est chiant parce que ça dépend un peu de qui est en face. Mais ouais. Bon, moi je suis plusieurs choses, mais je suis chercheur déjà. Je suis enseignant-chercheur à l'université à Caen depuis quelques années. Donc sur le cinéma et spécialement sur le cinéma politique, qui est un peu le truc qui m'intéresse le plus en recherche. Mais bon, il m'arrive de parler d'autres choses aussi. Et puis, du coup, animateur de podcast avec Robin depuis bientôt 4 ans, un truc comme ça,
ouais.
Et quelques.
Cinquième année.
Voilà, mais je fais aussi plein d'autres choses. J'aime bien la montagne, je suis batteur, je fais... Voilà, bref.
Super, merci. Et Robin, je sais pas pourquoi je te...
C'est... Aubry, tu peux me présenter si tu veux, mais ça sera de l'impro, donc je vais faire moi-même.
Non, vas-y, Robin, ouais, présente-toi à nous et à nos auditeurs et auditrices.
Eh bien, écoute, moi aussi, je suis un chercheur, je suis docteur en études cinématographiques. Je suis en ce moment enseignant à l'université de Caen aussi. Mais c'est tout à fait fortuit, on s'est retrouvés là par hasard tous les deux. Et puis, oui, je disais, je suis un gars de radio et de médias. J'ai commencé comme monteur vidéo, je fais pas mal de théâtre aussi. Et puis, je fais beaucoup de radio, notamment à Montréal, où j'ai été en co-tutelle de thèse pendant 8 ans. Et en fait, c'est ça, j'ai commencé la radio là-bas à CISM, la plus grande radio campus francophone en Amérique du Nord. On le dit toujours comme ça parce que c'est un peu stylé. En même temps, les bassins francophones en Amérique du Nord, à part le Québec, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, c'est stylé. Et donc, j'étais 5 ans, un peu plus de 5 ans, animateur bénévole de CISM avec une émission qui s'appelait C'est un tube consacré aux chansons francophones, puisque... notamment dans mes recherches, je m'intéresse quand même pas mal aux chansons, à l'histoire des chansons illustrées, mises en image, des chansons dans les films et des chansons tout court en fait aussi avec d'autres approches. Et puis voilà, ça fait bien, c'est la cinquième saison de ce podcast. Je suis très impressionné, vous avez dit que c'est quoi le 57e épisode ici.
Oui, nous, ça fait... on a du retard.
Nous, on vient d'enregistrer le 34e au bout de 4 ans et demi, donc... c'est relax.
C'est peut-être le 35e parce qu'il y a un hors-série.
Mais oui, bon. Il y a des hors-séries, il y a des bonus, il y a des trucs qu'on compte pas, mais ouais. non, c'est bon.
Merci beaucoup. Peut-être Aubry pour commencer la discussion.
Ouais. Alors, du coup, vous êtes présenté. Maintenant, on peut peut-être en venir. Enfin, on a parlé de votre rapport à la radio. On peut peut-être aller un peu plus loin là-dedans. C'est quoi ? Enfin, ça serait quoi votre votre découverte un peu de la radio, votre premier souvenir d'un contact avec la radio, des émissions que vous avez pu écouter il y a longtemps.
Alors, il faut remonter loin comme ça. Je ne m'attendais pas. Je vais m'allonger sur le divan rouge du studio. Non, mais en fait, on est un peu plus vieux que vous. Donc, en fait, moi, je suis né à une époque où la radio, en fait, c'était big. La radio, l'Internet, ça n'existait pas. Et ça fait bizarre de le dire. Hein. Et les podcasts, c'était loin du tout. Et en fait, voilà, au petit déjeuner, mon père, il écoutait les nouvelles sur RTL, sur le petit transistor FM de la maison. Donc en fait, il y a toujours eu la radio. Donc oui, c'était RTL. Et au bout d'un moment, quand j'ai grandi moi-même, ma rébellion à moi, ça a été d'écouter France Inter plutôt que RTL. mais c'est ça, moi, j'ai toujours connu de la radio. Et d'ailleurs, c'est étonnant dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fini à étudier le cinéma alors que... chez moi, on ne regardait pas particulièrement beaucoup de films. Mais par contre, le média, c'était pas mal. La radio, quand même. Ouais.
Ouais, alors que moi, mon premier souvenir de radio, c'est vraiment récent. Quoi. Ah ouais. Il n'y a jamais eu de radio allumée chez moi. Mes deux parents sont musiciens, donc il y avait tout le temps de la musique. Mais par contre, il n'y avait jamais une radio allumée. Et du coup, j'ai pas du tout cette culture-là. Et la seule fois où j'avais la radio quand j'étais petit, c'est quand j'étais dans le car scolaire et qu'il y avait des tubes normaux. Quoi, voilà, c'est ça. Et non, et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours un petit peu de mal. Et je pense que si je fais du podcast et pas des productions pour France Culture, c'est non seulement parce que je suis pas assez bon, mais en plus parce que c'est pas vraiment mon univers, quoi.
Ouais.
Voilà. Ok, merci beaucoup. Et bien, puisqu'on est, on remonte
dans les souvenirs.
Voilà, exactement. En parlant de souvenirs, exactement. À peu près la même question, mais avec le cinéma. Est-ce que vous avez, vous, un premier souvenir cinématographique, vraiment un film, une séance, quelque chose qui vous a fait vous dire que le cinéma, c'était quelque chose, en tout cas, que vous n'aviez pas forcément envie de laisser de côté dans votre vie?
C'est marrant parce que c'est un truc dont on parle assez souvent dans notre émission, justement, ce truc de pourquoi est-ce qu'on aime un film, et souvent c'est des raisons super personnelles et qu'on a du mal à expliquer aux gens. Et
ouais, vous avez consacré un épisode entier
ouais, c'est ça, il y a quelques mois, ouais. Et en fait, c'est toujours fou parce que quand tu demandes à quelqu'un son film préféré, il va pas te raconter le film, il va te raconter son histoire à lui. Moi, si je dis mon film préféré, je sais jamais ce que c'est, mais par facilité, je réponds toujours Alien. C'est parce que je l'ai vu gamin un peu trop tôt, je pense, mais c'est pas grave, ça m'avait bien plu. Avec ma sœur et mon père sur le canapé, et puis on a partagé un bon moment à ce moment-là, et c'est surtout ça qui compte. Après, il se trouve que c'est quand même un film super cool, donc ça me permet de le dire quand on me pose la question, mais voilà.
Ah, mais moi, si pour répondre à cette question, je vais encore être obligé de parler de médias obsolètes, encore que la radio n'est pas du tout obsolète. De
toute façon, ton premier souvenir de cinéma, c'était...
Valentin Magique.
C'était muet encore ou pas?
C'était muet en noir et blanc. Ouais. Non, c'était la VHS. La VHS, ouais. de Jumanji, enregistré à la télévision en VF, que j'ai regardé des dizaines de fois, de même que l'autre VHS qui contenait Madame Doubtfire. Et donc, quand j'avais 10 ans, je pensais que mon acteur préféré, c'était Robin Williams, parce qu'en fait, j'avais vu deux films avec lui et que les deux, je les trouvais cool. Mais c'était déjà pas mal. J'avais un acteur préféré.
C'est une take qui se défend toujours.
Ouais, c'est vraiment correct. Enfin, je veux dire, j'aurais pu tomber plus mal pour cette découverte.
C'était avant la hype, le cercle des potes disparus.
Ouais, c'est ça. Puis là, on a pris un peu de distance. Et tout. Mais je pense que je l'ai bien aimé quand je l'ai vu à 16 ans, le cercle des potes disparus. Pas
heureusement que t'avais 16 ans, parce que quand tu le vois à 26, c'est pas la même. Hein.
Donc je pense que c'est ça. Ouais, premier souvenir où j'ai un attachement avec des films, en tout cas, c'est Jumanji, clairement.
Ouais. Et quitte à rembobiner comme ça, pour rester dans le thème, comment dire, enfin, vous, votre podcast, c'est vrai qu'il a quand même une approche des films qui est aussi très politique.
Oui.
Est-ce que dans ce même angle-là, alors ce ne serait pas votre premier souvenir, mais une séance, pareil, un film où vous vous êtes dit justement qu'il y avait ce lien-là à faire, en fait, entre cinéma et politique, qui pouvait devenir évident, en fait, devant un film, et pas forcément un film politique, enfin, ça, on y reviendra, mais est-ce que, ouais, il y a un espèce de déclencheur, là aussi, comme ça, qui a pu vous marquer ?
Moi, je sais, mais bon, je pense que j'ai développé une conscience politique très tard, aussi pour des raisons familiales, mais par contre, je sais que la personne qui a commencé à politiser mon regard sur le cinéma et les images, c'est ma prof de cinéma de lycée, parce que j'étais en option cinéma au lycée, et que je la salue parce que je l'aime beaucoup. Ma prof de cinéma était une genre de vieille communiste. Nous, on disait communiste parce qu'on ne comprenait pas trop encore à 16 ans. Bon, elle était, c'était une gauchiste de base.
Elle était quoi, stalinienne, trotskomarchiste? Sois précis, Robin, là.
J'ai jamais eu cette conversation exactement avec elle encore. Mais voilà, c'est quelqu'un. Et puis en plus, ben, qui avait vraiment à cœur cette mission-là dans le métier d'enseignante, quoi, de nous enseigner la critique des médias, la critique des images, etc. Et je ne l'aurais pas formulé comme ça quand j'ai passé le bac, mais en fait, de nous inculquer une lecture politique des images. Alors, il y avait déjà un peu ce clivage de... C'était plus évident d'avoir une lecture politique de la télévision que du cinéma, par exemple, pour elle. Mais on a vu des documentaires critiques, le documentaire de Pierre Karl, par exemple, des choses comme ça. On a parlé de Bourdieu au lycée. Enfin, donc, je pense que la personne qui a un peu commencé à me politiser mes yeux de spectateur, c'est elle.
C'est vrai que la question des personnes, ça joue pas mal, parce que pour le coup, à titre personnel, de même, je suis politisé assez tardivement, vraiment bien après le bac, en prépa et tout. Et s'il y a des films qui ont pu jouer, et des films comme, je peux le dire, Un autre monde de Stéphane Brisé, qui est quand même pas non plus le... Mais c'est vraiment...
Running gag de Raph, Stéphane Brisé.
Je me retiens.
Tu peux, mais non, mais...
Tu sais qu'il se retient d'imiter, là. Hein.
Je t'en prie. Mais c'est vrai que ça a initié, en tout cas, après, une prise de conscience beaucoup plus large et théorique, etc. Mais c'est ça qui me fait... Enfin, dans mon senti personnel aussi, quand tu parles, Robin, du rôle des profs, pour le coup, vraiment, la prof que j'avais quand je suis arrivé... Enfin, que j'ai eu quand je suis arrivé à l'ENS et qui a cette lecture ultra matérialiste, politique des images et tout, c'est vraiment aussi ça, moi, qui m'a fait me dire que j'avais envie de faire des études de cinéma parce que je suis arrivé à l'ENS en lettres modernes. Et c'est ça qui m'a fait me dire que ça a une prise beaucoup plus directe, en tout cas avec... Enfin, les lettres modernes peuvent l'avoir aussi, mais en tout cas beaucoup plus directe avec le monde. Et que, pour le coup, dans son rôle de transmission, cette prof-là a vraiment réussi à me motiver d'une certaine façon.
Ah ouais. Ouais. C'est marrant parce que on s'est pas concerté du tout, mais moi, je dirais que la réponse à ta question, c'est pareil, c'est à la fac, quoi.
Ouais.
C'est les profs qui ont politisé ma vision du cinéma, alors que bon, j'étais déjà très politisé avant, mais j'avais pas forcément fait ce lien-là. Et c'est pour ça que maintenant j'essaye de faire un peu la même chose, de rendre ça aux étudiants aussi et aux étudiantes, de dire on va apporter une lecture politique, y compris en plus de celle qui peut être cinéphile et formelle, formaliste, etc. Parce que ça a légitimité aussi, quoi.
Exactement. Ben alors à ce titre-là, justement, ça s'exclut pas. Et pourquoi est-ce que, à vous deux, ça vous semble être une grille d'analyse suffisamment pertinente pour y consacrer des podcasts sur des thèmes très différents, on va y revenir, et vraiment en profondeur?
Pourquoi fait un podcast politique
quand même? Peut-être parce qu'on n'était pas satisfait aussi de la place que ça avait, ce sujet-là, dans les émissions de cinéma qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas, mais...
dans les émissions de cinéma et à l'université aussi d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais. Je pense. À l'université, il y a disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à la question politique, mais qui la décorrèlent un peu de celle de l'appréciation des films ou de la critique. Et puis, bah, c'est vrai que dans les podcasts institutionnels, dans les émissions de radio, dans tout ce qui concerne la diffusion de la culture, notamment de la culture cinématographique, la politique a quand même peu de place, je trouve. Ça va souvent être centré sur les auteurs, centré sur le style, éventuellement sur les anecdotes de tournage, les choses comme ça qui ont toujours beaucoup de succès aussi auprès du grand public. Et nous, on se disait, bah, si on a quelque chose à amener, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la seule grille légitime, mais en tout cas, c'est celle qu'on a envie d'ajouter, en fait.
Puis il y avait aussi le constat que quand même... on ne se l'est jamais formulé comme ça, hein. Je le reformule maintenant avec un peu de recul, mais on commence à faire ça il y a 5 ans, il y a quand même déjà beaucoup de podcasts autour de culture pop, culture geek, etc. On est dans le grand moment du MCU de Marvel qui était encore bien et tout, mais, non, mais c'est vrai, mais on trouvait que même si ça s'était très mis de l'avant dans les cultures de fans, les podcasts et tout ça, ben ça manquait d'une lecture politique, et en fait que nous on l'avait tout le temps quand on se parlait, et que ben, il y avait aussi des objets qui méritaient une lecture politique, qui n'étaient pas juste les objets politiques de cinéma habituels, quoi. Donc il y avait un peu de ça aussi, je pense.
Oui, c'est un truc qu'on essaye vraiment de faire, c'est que par rapport, je pense, à beaucoup d'émissions qui ont un peu leur ligne en termes de corpus, nous on va vraiment parler de tout, et donc à la fois de trucs très légitimes ou pas du tout culturellement, on va dire symboliquement, quoi. Et donc, là où... En fait, il y a des gens qui vont politiser facilement Marvel parce qu'ils vont dire « oui, c'est de l'industrie américaine, c'est de l'impérialisme, etc. » Mais nous, on essaie d'aller plus loin que ça. Mais en même temps, en retour, on va aussi politiser René, Godard et le cinéma d'auteur et le cinéma expérimental et tout ce qu'on veut, en fait, parce que tout ça, ça mérite d'être des approches qui fusionnent un peu, ouais. Je pense.
Et puis, c'est aussi une manière, même en... Comment dire, partant de sujets ou de thématiques qui sont assez larges, comme on l'a dit, enfin, de rendre ça aussi un peu plus évident, en fait, que ça soit déjà un peu plus un réflexe, et qu'on se dise pas « Ah non, c'est forcément des émissions d'abord militantes ou engagées, et ensuite de cinéma, mais qu'en fait, ça vienne d'un même coup, quoi. »
Ouais, puis il y a l'idée aussi qu'en fait, tout le monde consomme des films qui peuvent avoir une lecture politique. Et donc, tout le monde pourrait avoir une lecture politique des films qu'il ou elle consomme. Mmh. Y compris, on a fait des émissions sur la comédie romantique, sur la pornographie, sur plein de trucs, le sport. On a fait le sport, hein, je sais plus. Peut-être non, si c'est dans la liste des trucs qu'on fera jamais. Je suis nul en sport, en plus. Pourquoi j'ai ça?
Non, pourquoi pas.
mais ça, de dire qu'en fait, la politique, c'est pas un sujet. C'est une manière de regarder, d'analyser, d'écouter les films. Et donc, en fait, ça vaut le coup de le... porté sur plein de types de films différents, y compris en fait les films que tout le monde regarde, parce qu'en fait moi je regarde plus de films populaires avec des guillemets radiophoniques autour que les films d'auteurs ou je sais pas comment on met des étiquettes, quoi.
C'est d'ailleurs une chose dont on est assez fier. Je sais pas si on a le plus nombreux public du podcast français, mais par contre on a un public qui est pas forcément que cinéphile, et ça, ça nous fait très plaisir quand les gens viennent nous voir en disant on connaît rien au cinéma, mais en fait votre approche elle nous parle. Parce que quand je vois un film, je peux utiliser ce genre de grille, c'est gagné, quoi.
C'est des retours que vous avez quand vous faites des enregistrements en public. Je sais que hier soir à Villeurbanne, c'était justement, vous venez d'en enregistrer un sur la science, il me semble. Et puis récemment aussi, il y en avait un autre, je ne sais plus où.
À Caen. Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen.
Vous avez justement ce genre de retour-là. Enfin, les enregistrements en public, ça change quelque chose pour vous, pour votre... dans votre rapport au podcast et à ce que vous dites ou...
Je ne sais pas si on a encore assez de recul pour le dire, parce qu'on a commencé ça il y a 3 semaines. Mais,
il faut dire que je viens de rentrer en France. Voilà. J'étais donc au Québec jusqu'à il y a quelques mois. Donc en fait, on a fait 4 saisons à distance. Et là, on profite maintenant d'être à peu près tous et toutes au même endroit à des moments particuliers. Mais on se rend compte quand même qu'il y a des... par exemple, hier soir, il y avait des gens dans la salle qu'on ne connaissait pas. Et en fait, nous, déjà, on trouvait que ça, c'était cool. Juste ça, c'était cool. Parce qu'en fait, c'est cool de fédérer, de ramener nos potes dans un lieu pour faire l'enregistrement en public, parce que c'est sympa, parce qu'il y a du bruit, parce qu'on va avoir de l'interaction. Mais en fait, de juste te dire, il y a genre 10 personnes qu'on connaissait pas qui sont venues et qui, bah, juste parce que ça leur parle de, d'avoir cette approche-là, puis de la vibe qu'on a, bah, moi je trouve ça cool.
Ouais. C'est un truc, en podcast, on a rarement beaucoup de retours, mmh. et on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui interagiront jamais sur les réseaux sociaux, etc. Et tant mieux, ils font ce qu'ils veulent, et moi je ne mets pas systématiquement un commentaire à tout ce que j'écoute non plus, donc je comprends. Mais c'est vrai que ça donne l'occasion de créer des liens, bah, typiquement à Caen, il y a 3 semaines, ouais. la directrice du café, à un moment, vient nous voir en disant « Vous savez quoi, je viens de recevoir un message de telle copine qui m'a dit, il y a mon podcast préféré dans ton cinéma. » Et bah, on n'avait jamais interagi avec, avec elle, ni rien, mais voilà, on se rend compte que ça se diffuse un peu, quoi.
Mmh. Ouais, non, mais pour le coup, c'est vrai que même nous, on, comment dire, notre émission, finalement, elle est assez centrée en termes de public sur l'ENS, forcément. Mais je sais qu'à chaque fois, en fait, bah, forcément, on en parle un peu autour de nous et tout. Et moi, je sais que de temps en temps, j'ai mes grands-parents qui, pareil, ne sont pas des grands cinéphiles ou quoi, et qui me disent « Ah, mais en fait, on a écouté vos émissions, ça nous a fait réfléchir à vachement de trucs. » Et ils me font des mails ça. Super longs. Et ça fait du retour qui est toujours oui. assez intéressant, qui fait toujours plaisir. Quoi.
Ah bah, notre troisième pilier du podcast, Alice, sa mère écoute toutes les émissions et elle regarde tous les films cités. Et à chaque fois, après,
elle va avoir du boulot avec celui sur la science. Il y a 150 films cités.
C'est,
clair,
c'est une chroniqueuse de l'ombre.
Elle fait des archives, j'espère, parce non, que nous, vrai, on les archive pas, la liste des films cités dans l'émission.
J'avais dit que je le ferais.
Ouais, non, c'est
mais c'est intéressant, justement, ce qu'on... Raphaël, tu disais un peu plus tôt sur la présence ou l'absence, en tout cas, de d'approche politique dans la critique de cinéma radiophonique notamment, enfin disons que c'est vrai que ce à quoi dans l'inconscient français collectif on peut rattacher à la critique de cinéma à la radio, c'est quand même le Massier la Plume, qui effectivement n'est se caractérise pas par son approche politique. Enfin il y a eu critique Camille Nevers, mais qui n'est pas restée très très longtemps, et puis même c'est plus le cas dans la partie livre que dans la partie cinéma. Et en même temps, autour de... Dans les deux mondes du podcast, il y en a plein qui apparaissent, des podcasteurs, des podcasteuses, des podcasts en général, qui essaient d'avoir cette approche politique. Et d'ailleurs, vous avez fait des featurings divers avec L'Esprit Critique de Mediapart, avec Cinéma et Politique, ou encore avec Bollywood Versus. Enfin... C'est comment vous vous situez dans cette galaxie de jeunes créatrices de podcasts deuxième question, sur la question du featuring, c'est un choix conscient de votre part, cette volonté de diversifier un peu les voix, et, mais que ce soit dans l'ensemble quand même des voix plutôt jeunes de la critique.
C'est gentil de dire ça.
Qu'on est plutôt jeune.
Ouais. Moi j'ai dit que j'étais né à l'époque de la VHS, mais ça concerne.
J'ai vu des VHS aussi.
Ouais, en fait, sur la question du fit, nous on a une politique aussi qui est un peu contraire à celle de la radio institutionnelle, qui est qu'on n'invite pas quelqu'un pour ses compétences, parce que c'est la personne la mieux placée pour nous parler de quelque chose. On invite quelqu'un soit parce qu'on l'aime bien, c'est un ou une copine, ça peut arriver, soit parce que bah, justement on sait que ça va être quelqu'un qui va amener un truc un peu décontracté à l'épisode, tout en disant des choses intéressantes, tout en disant des choses personnelles, etc., et qu'on peut discuter après, mais plutôt que d'inviter un spécialiste qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui va faire un espèce d'exposé sur ce qu'il connaît, on préfère inviter quelqu'un qui va avoir plein de trous dans sa cinéphilie et dans ses connaissances, mais avec qui on va pouvoir vraiment avoir un échange, discuter avant, savoir qu'on est à l'aise, et je pense qu'on fait notre casting aussi comme ça, c'est d'abord des copains-copines, avant d'être des spécialistes de cinéma. D'ailleurs, pas mal de fois, on a invité des gens qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout de formation cinéphilique. Et c'est très bien comme ça. Voilà.
Et puis sur la question de notre entourage, donc plutôt des gens qui font du podcast, de la vidéo YouTube, etc. Et donc, oui, l'aspect un peu générationnel, c'est beaucoup de gens qui ont entre 30 et 35 ans. Je pense qu'il y a un truc qui est qu'en fait, nous, on n'a pas d'ambition avec ce podcast. Non, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'en vivre. On ne cherche pas ça, on ne cherche pas la grosse exposition médiatique. D'ailleurs, je pense que si c'était le cas, il faudrait qu'on se pose des questions, parce que visiblement, on a quand même une niche qui fait que c'est un peu normal qu'on soit un peu souterrain.
Je pense qu'on peut le dire, on n'a jamais gagné un centime avec cette émission. Si, hier, on n'a pas payé nos bières, quoi, c'est tout.
C'est vrai, ils nous ont offert un
bien joué.
Ouais. c'est vrai, très bonne ginger beer au café carbone de Villeurbanne, qu'on vous recommande, effectivement. Mais donc, il y a un peu ça, il y a le truc, on est tous profs, plus ou moins, dans l'équipe. Et on va inviter des gens qui sont OK pour venir. En général, pour les sujets qu'ils abordent. Donc voilà, on va aller chercher des podcasts un peu thématiques qui ont déjà des approches un peu politiques, mais en général, une approche politique d'un sujet pour lequel ils sont spécialistes. Nous, on vient les chercher dans l'autre sens. On va dire, nous, on veut parler de ce sujet parce que notre approche, elle est tout le temps politique. On renverse un peu le principe, venez une fois. Et puis après, si ils ou elles ont le temps de venir plusieurs fois parce que ça s'est bien passé, en fait, on les réinvite. Et donc, Clémentine de la chaîne YouTube Cinéma et Politique, en fait, elle est là une fois sur deux ou trois parce que, en fait, elle est cool et qu'elle a du temps parfois. Ah ouais. Et puis que, voilà, ça se passe bien. Mais si les gens n'ont pas d'autre temps, on comprend. Nous, c'est du temps, c'est bénévole.
Ça peut être un one-shot aussi. On va pas forcer la main dans la mesure où on n'a pas grand-chose de plus à leur offrir non plus. C'est ça. Voilà.
Donc, c'est ça. N'ayez pas trop d'ambition. C'est ça mon conseil.
Ça sauvegarde l'originalité quelque part. Mais du coup, pareil sur cette question, comment dire, est-ce que juste vous creusez votre propre sillon un peu dans votre coin, dans l'univers des podcasts cinéma, ou est-ce que vous piquez du coup des petites influences à gauche à droite, vous écoutez, vous gardez un peu au courant de ce qui peut se faire
Moi, je suis vraiment le bad cop de l'équipe là, sur ça. C'est-à-dire que, en fait, j'écoute beaucoup de choses, mais j'en aime assez peu. non, mais je parlais tout à l'heure du fait que j'ai pas de culture radio. Pour moi, le masque à la plume que tu citais tout à l'heure, Louis, mais c'est inécoutable.
Non, j'aime vraiment, pas ça non plus.
Je ne supporte pas ça. Vraiment, le max que je suis capable d'écouter en termes institutionnels, c'est l'esprit critique de Mediapart.
Ouais.
Quoi.
Ouais.
Et encore, je trouve qu'ils sont un peu trop polis. Quoi.
c'est vrai.
Je dis ça avec toute l'amitié que j'ai pour Occitane.
Qui vient souvent
chez nous. Tout ça,
qui est un peu moins poli quand elle vient chez nous.
Ah oui. C'est ça.
C'est pour ça qu'on existe.
Voilà, on a plus de liberté aussi parce que le format natif comme ça, ça permet de vraiment être super malléable. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que en gros, plutôt que d'être contraint par un format, par une manière de parler, par des attentes en termes promotionnels, de lien avec la personne que tu vas inviter, avec qui tu vas avoir une espèce de dette symbolique quand c'est un auteur, un cinéaste, tout ça. Au lieu de ça, nous, on a juste une petite pièce dans laquelle on est un peu tout seul, mais quand on n'a pas la place, on pousse le mur et puis on fait ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'est quand même super agréable.
Ce qui se ressent aussi, parce que vos podcasts, ils sont assez longs.
Oui.
Ils font entre 1h15, 2h parfois.
C'est vachement trop long pour Radio France. Tu vois, on ne pourrait vendre ce podcast sous cette forme-là à France Culture à 1h45.
Mais en même temps, justement, du coup, c'était un peu répondu, Raphaël, mais là, vous laissez vraiment une grande part à l'improvisation quand... Ou pas, justement. Dans quelle mesure c'est scripté? Dans quelle mesure c'est galère au montage aussi?
C'est à 100% écrit. Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, mais c'est pas faux.
C'est pas complètement faux. C'est-à-dire que, en fait, on essaye d'avoir un espèce d'entre-deux qui est d'avoir quand même l'exigence de dire des choses qu'on va trouver intéressantes. Pas arriver en mode il y a plein de trucs que j'écoute où c'est juste on est potes, on branche le micro, on parle et c'est super, ça peut donner des choses super, mais à terme quand t'essayes d'amener du contenu et une lecture un peu justement politique, informée, tout ça, t'es un peu obligé de bosser, et donc nous on préfère faire le contraire, c'est-à-dire c'est exiger de nous-mêmes de dire des trucs intéressants, et puis après comme ça la marge de liberté qu'on va prendre pour discuter, pour rigoler, en fait elle est sans scrupules.
Ouais.
Enfin, on peut le faire parce qu'on s'est imposé une petite exigence derrière.
C'est quand même toujours très écrit. Toutes les chroniques sont toujours écrites. Et Raph dit bof, ça dépend. Il écrit peut-être un peu moins parfois. Mais non, mais par exemple, c'est moi qui anime. Et en fait, j'ai toujours les notes de tout le monde sous les yeux quand j'anime l'émission. Donc en fait, tout le monde a toujours quelque chose d'écrit et de rédigé et de quand même... au moins 2 pages de texte à m'envoyer, même si c'est des notes et qu'ensuite les gens improvisent les phrases et brodent avec ça, mais c'est quand même très préparé, ça nous évite de dire n'importe quoi, ça nous évite de devoir nous fact-checker en direct ou dire que c'est pas grave de dire des conneries, parce qu'on n'aime pas trop ça, on est quand même un peu universitaire sur les bords, vous avez compris.
Ouais.
Donc c'est ça, mais ce qui fait que on aime bien s'interrompre pour... Moi j'aime beaucoup l'impro, mais J'ai aussi passé beaucoup de temps au Québec où c'est une discipline qui est très forte. Mais en impro, il y a le yes and, qui n'est pas du tout une norme, qui n'est pas du tout obligatoire. On a le droit de dire non en impro. Mais cette idée quand même que c'est bien de construire sur ce que les autres apportent. Même si c'est non qu'on dit, même si on n'est pas d'accord. Mais on n'est pas d'accord en construisant sur ce que les autres apportent. Et ça, c'est vraiment un truc que nous, par contre, on met comme règle quand on a des nouveaux et des nouvelles qui viennent. C'est qu'en fait, nous, on ne veut pas de clash. En général, on est d'accord. On est tous d'accord, on va pas faire de faux débats comme dans Le Masque et la Plume où il y en a un qui va surjouer qu'il a aimé et l'autre qui va surjouer qu'il a pas aimé parce que c'est ça qui fait la radio. Non, nous on va pas faire ça. Par contre, si on a des trucs à ajouter, c'est parce qu'on va creuser un peu plus loin dans le sujet, puis rajouter des éléments à la chronique qui est normalement bonne. Et en fait, on part du principe que si on a invité quelqu'un, c'est que il ou elle va nous dire des trucs qui vont nous intéresser, parce qu'on a déjà écouté ce qu'il ou elle fait par ailleurs et qu'on n'a pas de doute là-dessus. Donc, on clash jamais. On a une politique de pas de clash.
C'est important. En fait, c'est vrai que je sais pas comment ça résonne de l'extérieur quand on nous écoute, mais on a beaucoup de petites règles implicites comme ça. Au départ, c'était juste un espèce de truc de on se clash pas parce que c'est pas agréable à écouter. Ouais. C'est pas non plus on très agréable à vivre non plus parce qu'on est censé être quand même plus ou moins potes et que on n'est pas là pour se chercher des noises. Et puis, en fait, on a fini par théoriser ça aussi a posteriori en se disant, mais surtout ce qui va pas quand tu commences à clasher parce que t'es pas d'accord sur un film, c'est que en général, t'as pas assez réfléchi à l'argument de l'autre. T'as l'injonction à répondre tout de suite parce que c'est du direct, c'est comme ça, on enregistre maintenant.
Ouais.
Et en fait, ton argument, il va être de toute façon pourri parce que tu auras pas eu assez de temps pour y réfléchir. Donc, plutôt que de faire des faux clashs ou d'improviser des réponses pas très convaincantes à l'avis de l'autre, ben on garde ça pour plus tard et on en reparle derrière si besoin autour d'un coup quoi.
Voilà. C'est hyper intéressant parce que en vrai, enfin, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Aubry, mais ça résonne un peu avec nous, la façon qu'on a de faire, pour le coup, Le Comptoir du Cinéma, qui est une émission que, personnellement, j'écris pas mal aussi, surtout en tant qu'animateur, pour le coup, pour la présentation de ce qu'on va faire aujourd'hui, le résumé critique du film et tout. Et même, mes arguments, en fait, sont assez écrits, tout en laissant cette marge d'improvisation de je sais, enfin, c'est pas parce que j'ai écrit telle chose après telle autre que je vais les dire dans cet ordre-là, et je vais essayer de garder ce côté un peu rebondir sur ce que disent les autres. Et puis, ce qui donne aussi, de préparer comme ça nos arguments tout en gardant le côté très discussion qu'on a parce qu'on est tous potes en fait, enfin on se connaît tous très bien, ça empêche effectivement ce clash là à la limite, s'il y en a des clashs ou des punchlines, c'est plus sur les films qu'on se permet qu'entre nous, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet, là je prends la dernière émission qu'on a faite sur Chien 51, ça permet de contrebalancer à la fois, enfin de citer on va dire Krakauer dans une lecture un peu roman policier, enfin question politique etc, et de faire des vannes sur le fait que c'est quand même pas un excellent film non plus, et de citer, voilà, de convoquer Achille Talon ou La Passe Navigo, mais je veux dire c'est assez intéressant de voir, enfin je retrouve assez en tout cas les impulsions qu'on a nous quand on crée le podcast dans ce que vous venez de nous expliquer.
C'est intéressant de s'autoriser la vanne aussi parce que c'est vrai que nous on est universitaires, hein. Non mais c'est vrai que on pourrait imaginer, et c'est un truc qu'on a pas mal réfléchi entre nous aussi, c'est-à-dire si on fait une émission de cinéma où on se donne du cher collègue, on se vous voit et on dit pas un mot plus haut que l'autre, bah en fait on est juste en train de faire notre travail normal mais pas payé, et ça nous intéresse pas, ça nous amuse pas beaucoup, et ben on préfère amener,
c'est pas très politique, enfin c'est pas très intéressant politiquement aussi, non plus,
voilà, mais ça empêche pas que voilà, on va pas être les mêmes personnes quand on est invité dans un colloque à faire une conf sur un truc, voilà, de notre spécialité. Et c'est justement peut-être pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir cette soupape où on s'autorise une forme un peu plus décontractée, mais sans aller jusqu'à dire n'importe quoi, aller jusqu'à être dans la pure impulsion, la pure petite opinion comme ça qui t'est venue il y a deux secondes et que tu vas regretter après.
C'est vrai que nous, ça peut nous arriver des fois. Enfin, parce que ça, pour le coup, Louis, c'est vrai que Louis écrit pas mal pour préparer l'émission. C'est vrai que nous, dans les chroniqueurs et chroniqueuses, des fois, on est un peu plus last minute. mais c'est vrai que, pour le coup, c'est pareil, un truc qui m'a fait tilter, c'est sur tout ce qui est clash, etc. Nous, on est quand même assez souvent d'accord, mais c'est vrai qu'il y a certains films qui polarisent un peu nos opinions sur les films. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est pas dans cette espèce de culture de surjouer le clash pour que, pour que ça crée, je sais pas, de la tension ou des trucs vraiment différents. Et on est plus en mode, justement, à partir de ça, en fait, continuer à creuser la discussion pour essayer de comprendre à peu près sur quel point on n'est pas d'accord et pourquoi, etc. Et au final, c'est plus... souvent c'est assez drôle et puis c'est plus ça nous apprend plus quelque chose à chacun qu'autre chose quoi.
Oh, puis par rapport à notre ligne éditoriale, je veux dire, médiatiquement le clash c'est un peu plus de droite quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont c'est assez à la mode quand même depuis quelques années la critique des médias, la connaissance autour de le démontage du fonctionnement médiatique etc, et du coup même chez des gens qui sont de la même sensibilité que nous, je n'ai pas dit gauche mais vous avez compris
il n'a pas dit
ça, il peut y avoir cette espèce d'idée que de toute façon il faut entendre tout le monde, qu'il faut avoir du contradictoire, que c'est quand même important d'avoir, d'avoir des... Et en fait,
ah oui, c'est pas très de gauche, t'avais bien fait de pas dire gauche.
Non, mais même à gauche,
ouais,
gauche
non,
y a des gens qui, blague, qui nourrissent ce truc là, ouais. Et moi,
pour le coup, c'est un peu la théa du masque et la plume.
Ouais, c'est ça.
Mais pas que, en fait. C'est-à-dire, il y a pas. Les gens, même sur YouTube, par exemple, t'as pas mal de gens qui vont reproduire ce format-là. Sur Blast, t'as des vidéos qui vont buzzer un petit peu, comme ça, à chaque fois, le pour le contre, le truc. Non, moi, ça m'amuse pas vraiment. Et je trouve que, sans aller dans le truc de. Il faut absolument faire valoir notre avis unique, la bonne ligne, etc. C'est pas ça. On essaye, je pense. Enfin, j'espère qu'on y arrive. D'être assez humble aussi sur nos avis. On modalise beaucoup, on dit beaucoup que quand on pense quelque chose, c'est peut-être parce que notre histoire personnelle nous amène à ça. Mais.
Ça, c'est hyper important de situer aussi dans la critique, son point de vue.
Mais c'est ce que très peu de personnes font.
Ouais, voilà,
et j'aimerais qu'on ne devienne pas des éditorialistes, justement. C'est-à-dire qu'ils croient que leur avis vaut pour lui-même sans se poser la question d'où il vient.
Ouais. Et en plus, c'est rare qu'on soit plusieurs à parler du même film, mais quand on le fait. En général, précisément, c'est parce qu'on a tous le même avis sur le film et qu'on le prend avec une approche différente chacun et chacune. Mais c'est jamais pour... y en a un qui va être pour et un qui va être contre le film. C'est jamais arrivé. Et là, par contre, pour le coup, c'est pas une doctrine. C'est pas un truc qu'on s'est dit. On veut pas que ça arrive, mais ça arrive comme ça. Quand on est plusieurs sur un film, c'est soit qu'on a tous les deux adoré le même film, soit que... Mais en général, c'est ça.
Ouais.
On a tous les deux adoré le même film. Puis comme on n'a pas exactement les mêmes approches... je pense à Cam, on avait parlé, toi Cam, plutôt du son et moi plutôt du scénario. Là, on a fait sur On Falling, l'avant-dernier épisode, ou le dernier en fonction de quand est-ce qu'on va sortir tout ça. c'est ça, on était deux à parler du même film qu'on a trouvé incroyable tous les deux. Et en fait, on a juste pris des angles différents, puis on se dit que c'est complémentaire. Et puis que voilà, tant pis, on a 35 minutes d'émission sur un seul film où on passe le temps à dire qu'il est formidable et pourquoi il est formidable.
Et puis l'émission d'après. On va avoir une heure où on cite 50 trucs.
Oui, c'est vrai que ça va être l'inverse.
Voilà, c'est aussi le fait de ne pas s'imposer des formats trop stricts. Quoi.
Ouais, et puis ça permet aussi, et on en revient à la manière dont vous pensez vos émissions, on l'a dit avec plutôt des sujets larges que par exemple un film, comme nous et tout. Ouais. Ça permet pour vous d'avoir, entre guillemets, votre propre actualité, vos propres sujets, quoi, en fait, et de ne pas dépendre forcément de ce qui sort à tel moment.
Oui, et d'assumer parfois un truc très inactuel aussi. Ouais. Parfois, y a des trucs de fou qui se passent dans le milieu du cinéma, et nous, on parle de films anciens, sans aucun lien, et voilà, c'est comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de logique.
Souvent. Ouais, mais parce qu'on peut aussi trouver des trucs. Qui paradoxalement on l'aurait pas soupçonné, mais résonnent avec telle ou telle actualité. Ouais.
Mais ça va avec le fait qu'on n'est pas dans un format radio, qu'en fait on n'a pas d'impératif. Là, on a fait 3 émissions en un mois et demi, mais on n'en avait pas fait pendant 5 mois parce que j'étais en train de déménager du Québec. Et ben c'est pas grave. Et les gens, en fait, ils nous suivent quand même.
Ouais.
Et donc tant pis. Enfin, je veux dire, au début, on s'était dit on fait une émission toutes les 4 à 6 semaines. En fait, là, on fait une émission quand on peut. Et en fait, c'est mieux. Enfin, je veux dire,
C'est aussi un truc qui peut contraindre dans un certain sens, c'est qu'on ne peut pas être au top de l'actualité parce qu'en général, on a nos thèmes en tête, on a des émissions, des idées d'émissions qui vont arriver, mais on ne sait pas vraiment quand. Et donc, on ne peut pas se dire, alors cette année, il y a Cannes à tel moment, il y a le festival de trucs à tel truc, et il y a la Saint-Valentin, il faut absolument qu'on ait un épisode de Saint-Valentin. Et en fait, on ne fait pas ça parce que notre calendrier est très mobile, on sait qu'on ne tiendra pas. Et souvent, comme on a aussi des gens du public qui nous suggèrent des idées, ça nous trotte un peu dans la tête, on dit oui, ok, on le fera un jour, mais on le fera quand ça arrivera.
Le sport.
Je sais pas pourquoi j'ai lancé ça tout à l'heure.
En même temps, c'est cool, on avait fait un petit hors-série sur le sport qui était cool. Mais alors ça contredit un peu ce que vous venez de dire. En même temps, vous arrivez parfois quand même à proposer des épisodes qui sont vraiment directement en prise, ou bien avec l'actualité,
oui,
ou bien
arrivé.
Avec ce qui sort.
Non, ça contredit pas, mais c'est plus ponctuel.
Ouais, mais par exemple, moi, j'y pense parce que c'est le premier épisode que j'ai écouté de votre podcast qui portait sur... en gros, faut-il tout montrer au cinéma ou que peut-on montrer au cinéma ou comment le montrer, et qui portait notamment sur la zone d'intérêt et No Other Land, qui connaissait des sorties à peu près parallèle.
Netherlands, il n'était pas du tout sorti encore.
Oui, il était passé à Berlinale, au Réel aussi.
Ouais, on l'avait
Un lien presse, nous, mais oui, il y avait un...
Oui, c'est ça, il n'était pas encore sorti en France.
Ouais, le film en France est sorti genre plus de deux mois après, je pense. Enfin, on était vraiment...
Il est sorti... Ouais, en novembre, je crois. Donc,
et
finalement...
on s'est pas interdit de dire de le faire alors que c'était un peu abstrait en fait dans la tête des gens, j'imagine, mais en même temps bah en fait ça a mis 2-3 mois à mariner dans la tête des gens qui ont écouté, puis je pense qu'on avait été suffisamment convaincant pour que les gens y aillent.
Je pense que la raison à ça, c'est aussi que certes on est vraiment trois, donc Alice, Robin et moi, à un peu driver le truc pour que ce podcast puisse exister, continuer, etc., dans la forme dont t'as envie qu'il se fasse. Mais au fond, on valorise quand même pas mal l'apport de nos chroniqueurs, chroniqueuses, même s'ils sont très ponctuels. Et du coup, on a besoin aussi que parfois quelqu'un d'autre arrive avec une illumination pour dire waouh, je viens de voir tel film, ou alors il s'est passé tel truc, j'ai absolument envie qu'on en parle. Ça vous dit, on fait un truc là-dessus. Clémentine fait beaucoup ça, elle m'envoie des messages, mais il faut absolument qu'on fasse un podcast sur tel sujet. J'ai déjà ma chronique en tête parce qu'elle m'est venue comme ça d'un coup sur un événement ponctuel.
En général, Raph et moi, on est les derniers à écrire nos chroniques.
Ouais, bien sûr.
À cause de ça, précisément à cause de ça. Non, mais
c'est vrai.
C'est structurel.
Et ça valorise aussi les gens qui vont bosser avec nous parce que c'est eux qui vont amener la. Voilà, là, hier soir, celui qu'on a enregistré sur la science, évidemment, il y avait deux méga spécialistes. Alice est philosophe des sciences, Richard, mon voisin, il est didacticien de sciences. Nous, on est arrivé un peu après avec ce qu'on pouvait, mais au final, l'envie, elle vient d'eux. Et c'est ça qui est cool. Pareil, quand il y a eu le salut nazi d'Elon Musk, avec Aurel, on a bu un coup à un moment. On s'est dit, mais il faut absolument qu'on parle d'anthropologie visuelle des gestes avec ça. L'émission, elle s'est construite comme ça, par petits bouts, quoi.
Mais sauf que Aurel et Raph, ils se disent ça en buvant un coup, mais nous, dans le podcast, on va jamais dire anthropologie visuelle des gestes.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'on n'est pas là pour ça non plus, parce que si on fait ce podcast, c'est pour faire des trucs et dire des choses de manière autre que quand on écrit des articles universitaires. Ouais. C'était cool. Ouais.
Mais alors justement, comment est-ce que votre pratique de l'écriture académique ou universitaire, puisque ça fait longtemps quoi, que vous...
Là, il vient de dire qu'on est vieux. Tout à l'heure, il disait qu'on était jeunes, mais là, je dois remarquer que...
le clash.
Le clash. Ouais. On n'est pas dans notre émission, du coup, on change les règles.
C'est ça.
Bim.
T'as bien vu qu'ils ne nous ont pas mis du même côté de la table.
C'est évident. Exactement. Non, mais comment est-ce que cette pratique-là, ça a pu infuser votre pratique d'écriture radiophonique, ou l'inverse d'ailleurs même.
Non, il faut dire, je vais le répéter et le reformuler, mais que Raph, quand il est venu me proposer de faire un podcast, précisément le cahier des charges de Raph, c'était de dire on va pouvoir dire des trucs qu'on ne dirait pas, à la fois à cause de la forme académique et aussi peut-être à égalité à cause du calendrier de publication académique. C'est-à-dire que, et des autres contraintes de format et de peer review et blablabla, et de recherche située, parce que oui, on commence à assumer pas mal d'avoir des articles un peu à la première personne, un peu critiques parfois, etc., mais on publierait jamais ce qu'on met dans le podcast. C'est pas des textes universitaires du tout, jamais, et il faudrait pas.
Oh, ma chronique d'hier, elle était très
universitaire. Même, hein. Ouais.
Je tease là vraiment pour les gens. Allez l'écouter, vous allez apprendre des trucs, hein, vraiment. Là.
Sur les dinosaures, surtout.
En même temps, vous arrivez à rendre le tout un peu ludique aussi. Enfin, je veux dire, il y a des jeux qui, encore une fois, un peu construits contre. Des quiz cinéma, c'est ce que je disais en off à l'instant.
Parle des jeux, c'est toi le professionnel des jeux.
Mais je sais pas pourquoi j'ai été désigné professionnel des jeux alors que j'ai vraiment pas de compétences
Vous êtes jamais allé chez lui, mais il y a une bibliothèque de jeux de société immense.
Non, c'est vrai que j'adore le côté ludique dans beaucoup d'activités, que ce soit jeu de plateau, jeu de rôle, jeu vidéo, etc. C'est une culture que j'ai assez fort et je trouve ça intéressant d'essayer d'inventer. Le défi qu'on s'est mis un peu, mais c'est pas vraiment tenu, c'est d'inventer un nouveau jeu à chaque épisode. Bon, là, on commence à être plus de 30. Il y a des trucs qui vont se répéter forcément, mais il y a l'idée que le jeu, il doit partir, il doit émerger du sujet, et que du coup, ça va contraindre un petit peu la manière dont on joue. On essaye de faire ça au maximum, et ça évite de s'enfermer dans des trucs, comme on disait tout à l'heure en off, d'érudition, en fait. Ouais. Parce que c'est très facile d'inventer un quiz sur n'importe quel sujet, mais en général, tu sais, tu sais, tu sais pas, et quand la majeure partie des gens savent pas, et ils s'emmerdent. Et d'ailleurs, en fait, nous aussi. C'est-à-dire qu'il y a un running gag qu'on a ensemble, c'est qu'on est nuls à nos propres jeux, vraiment. Heureusement que là, en live, à chaque fois, il y a un public qui connaît les réponses et qui les
écrit. Est-ce que j'ai demandé, justement
Ah, ils ont été bons. Hein.
Ah, mais les, alors,
les deux fois, quand, les deux lives.
Quand, il y avait pas mal d'étudiants et d'étudiantes à nous qui étaient là. Elles ont été beaucoup elles ont plus été fortes super. sur les jeux que nous. Et pareil, hier soir. Et bah, moi, ça me fait super plaisir parce que ça montre qu'on est là, mais on assume aussi le fait de ne pas être expert en tout, le fait que sur le moment, tu penses à rien du tout. Et donc tes références elles te filent entre les doigts super facilement.
Ouais.
Et donc et par exemple là sur la science c'était quoi la règle du jeu, enfin la règle.
C'est marrant parce qu'on a eu tout un débat ensemble en off sur c'est quoi le jeu qu'on est en train de faire parce que personne n'avait compris la même chose. Mais à la fin, à quoi ça ressemblait, c'est que j'ai décrit des exemples de moments débiles dans les films dans lesquels on explique la science avec des métaphores toutes pétées et il fallait deviner si c'était vrai ou faux. Donc voilà.
Ouais. Là, tu vois, c'est un exemple à la con, mais genre une mécanique de jeu qui est-ce que c'est un vrai exemple ou est-ce que c'est un faux exemple, c'est pas grand-chose. Ça demande à Raph d'inventer trois trucs un peu what the fuck, mais ça évite de dire je vous décris une scène de film et vous trouvez le film.
Ouais, c'est clair.
Parce qu'en fait, c'est quand même à ça qu'on finit par jouer. Parce qu'évidemment, quand on pense que c'est vrai, on va chercher le film, ou quand on trouve le film tout de suite, on sait que c'est vrai, mais en même temps, il y a un peu ce truc symbolique de dire que c'est pas ça le but du jeu quand même.
C'est ça. Et moi, je me suis finalement beaucoup plus amusé à soit à inventer des trucs faux qui aient l'air crédibles, soit à tordre les trucs vrais pour qu'ils aient l'air pas crédibles. Et finalement, c'est beaucoup plus marrant que juste de deviner parmi ta bibliothèque mentale à quel film ça te fait penser, parce qu'en fait, il y a une chance sur deux que personne ici ne l'ait vu, que tu sois le seul que ça intéresse, et j'assume complètement ça. Moi, les films que j'aime, je suis OK avec le fait que personne les aime ou que personne les ait vus ou que, en fait, les gens s'en foutent et les aient oubliés.
Plus, après, les gens, ils découvrent qu'on n'a pas vu les classiques et tout. Puis après, moi, je fais de l'histoire du cinéma puis je me fais clasher par les étudiants parce que j'ai pas vu les classiques. Donc, il faut pas que les gens sachent ça.
On assume assez d'être un podcast de pas de cinéphile, en fait.
Ouais, on le dit souvent, clairement.
Au sens où on n'est pas dans la cinéphilie et dans ces circuits classiques, mais aussi parce qu'on ne voit pas tout, que ça ne nous intéresse pas forcément de tout voir, et qu'on l'assume assez bien. Voilà.
Super, c'est un beau mot de la fin. merci beaucoup, c'était vraiment une super interview. J'espère que ça vous a plu aussi,
d'être
micro de Transistor. Et nous, on se retrouve juste après la virgule.